s'annonce une immense accumulation de marchandises.
Ce n'est pas l'immense débouché du marchand de pied ou du boulanger que nous attendons notre budget. Du soin qui les apporte
à leur soin.
Gilles Raveau. Mais alors, où est-ce que les néolibéraux d'aujourd'hui, comme on dit, ont puisé leur inspiration ? Si, comme vous le dites, c'est une lecture tronquée d'Adam Smith, où ont-ils été trouver leur inspiration pour asseoir une telle certitude qui était, souvenons-nous encore une fois, de Jean-Marc Sylvestre ?
Alors là, il y a un petit mystère, mais qui est vraiment le truc le plus important, effectivement, dans la pensée des économistes, c'est ce fameux passage sur la main invisible. C'est-à-dire
la main invisible du marché.
Voilà, la main invisible du marché. Alors effectivement, loin dans son œuvre, vers la fin du bouquin qui est très très long, pas comme celui-ci, Smith écrit un chapitre consacré en fait aux échanges internationaux. Et alors, ce qui est extrêmement drôle, c'est que dans ce chapitre, Smith se fait le chantre du protectionnisme le plus absolu. C'est-à-dire que dans ce chapitre, Smith écrit que les lois anglaises, qui datent des années 1650, sur qu'on appelle les lois de navigation, qui étaient des lois qui réservait entièrement à la flotte anglaise le commerce triangulaire, le commerce des esclaves, le commerce avec les colonies, qui étaient les lois les plus protectionnistes qu'on puisse imaginer. C'est d'ailleurs sur ces lois que s'est bâtie la richesse anglaise et ensuite la révolution industrielle en Angleterre. Bref, et donc dans ce chapitre, Smith parle de la décision d'un entrepreneur qui décide d'investir à l'étranger ou d'investir localement. Et nous dit que souvent, même si les gains à l'étranger seraient plus élevés, les investisseurs, les entrepreneurs vont investir localement parce qu'ils peuvent mieux maîtriser l'usage qui est fait de leurs fonds. Ils peuvent voir ce qui est fait avec leur argent. Ce faisant, nous dit Smith, l'entrepreneur va accroître l'emploi local. Il va donner du travail à des gens qui n'en avaient pas. Et donc, ce faisant, il est comme mu par une main invisible qui le conduit à faire le bien alors qu'il ne recherche que son intérêt égoïste. Voilà. Donc, ce long raisonnement pour décrire une chose très simple, c'est de dire quelqu'un qui crée son entreprise, il le fait pour gagner de l'argent, mais... il va aussi créer des emplois. Et c'est tout ce que dit Smith. Et ça, tous les économistes sont d'accord avec ça. Et c'est d'une affreuse banalité. Et ce passage de Smith, qui est très clair, enfin on peut le lire et le relire à l'envi, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus, va ensuite être tiré, le fil a été tiré à l'extrême en disant « Regardez, il y a une harmonie naturelle des intérêts. Il n'y a aucun conflit entre le patron et ses employés, alors que Smith écrit l'inverse. » Mais les ultralibéraux vont garder que ce passage en disant « Voilà, regardez Smith, un grand philosophe, etc., qui nous montre que, avec le marché, en recherchant son simple intérêt égoïste, on fait le bien des autres. Et après, on voit bien les conséquences politiques de ça. C'est-à-dire que, allons-y, les amis, si ça c'est vrai, il n'y a plus besoin d'aucune régulation, d'aucune sorte. Il faut laisser les gens se vautrer dans leur cupidité, leur désir d'accumulation matérielle, et la société va en bénéficier.
Sauf qu'à chaque fois que cette idée de lâcher la bride et laisser tout le pouvoir à la cupidité, ça a conduit aux catastrophes que l'on sait, pour n'évoquer qu'une, celle de 1929, aux États-Unis entre 1918 et 1929. Ça a été le triomphe de cette cupidité, une production sans limite et sans contrôle, et ça aboutit à ce qu'on sait. Donc on a des expériences qui ont montré dans l'histoire que ça n'aboutissait qu'à au triomphe du renard libre dans le poulailler libre, pour reprendre la fameuse expression. Comment se fait-il que cette théorie, disons, ou cette idéologie, disons, a pu reprendre chez nous, à partir du tournant des années 80, avec Margaret